Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 8e épisode de la 2e saison de Popol. Et pour ce 8e épisode de la 2e saison de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Clara Gulliver. Bonjour Clara.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Je vais bien, merci. Et toi?
Écoute, ça va, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Alors, je me prénomme Clara Gulliver, je suis martiniquaise, originaire de la Martinique, et je suis également la fondatrice du média Clamaria TV. C'est un média que j'ai initialement lancé dans le but de remettre les territoires d'outre-mer au centre du débat public, puisque j'observais il y a quelques mois que les territoires d'outre-mer n'étaient pas forcément visibles dans les médias, tels que CNews, tels que BFM TV, tels que France 2, France 3, etc. Et le but, c'était vraiment de donner la parole aux responsables politiques des territoires d'outre-mer, mais également aux personnes de la société civile, afin qu'ils s'expriment sur les problématiques de notre territoire. Et j'ai lancé ce média, j'ai pu recevoir des personnes de la société civile, des personnalités politiques, telles que le député et actuel président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, des femmes sénatrices telles que Catherine Concorde. Donc voilà, j'ai reçu des personnalités politiques, des personnes de la société civile, on a débattu, et le but, c'est vraiment de remettre les territoires d'outre-mer au sein du débat public. Aujourd'hui, j'observe qu'on est de plus en plus présent dans les médias, donc surtout avec la crise sanitaire, mais il y a encore du travail à faire, et je pense que l'ensemble des personnes qui viennent des territoires d'outre-mer pourront travailler à ce projet. Voilà pour ma part.
Génial. Bah écoute, on espère que l'appel sera entendu. Merci beaucoup, Clara. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui Virgule Bérézia. Bonjour, Virgule.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Eh bien, écoute, ça va très, très bien. C'était un plaisir d'être ici.
Ah, cool, c'est top de te recevoir aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Virgule?
Absolument. Alors, moi, je suis absolument personne. Hein.
Je te stoppe, je ne suis pas d'accord. Tu vas reprendre. Tu ne peux pas être personne, c'est impossible.
Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça qui ait eu des responsabilités ou quoi que ce soit, ou qui fait un travail particulier ou quoi que ce soit. C'est simplement, je suis une personne qui a vu des choses, qui a fait pas mal de choses, qui en fait encore pas mal, notamment dans tout ce qui est le militantisme en matière d'antiracisme, de transidentité. Notamment parce que bon, bah, je pense que ça ne vous aura pas échappé, mais je suis une femme trans. Et également, qui a un passé un petit peu spécial, puisque j'ai été dans les ordres catholiques, qui fait aussi que j'ai une certaine vision des choses, qui fait que, par exemple, bon, bah, quand je vois les propos qui peuvent être tenus actuellement dans la société ou par certains membre du gouvernement, par exemple. Et moi, ça me rappelle un petit peu des choses que j'ai pu connaître très intimement. Et je me dis, non, mais avant, quand même, on se cachait pour dire ces choses-là. Et maintenant, ça commence à devenir un petit peu inquiétant.
Ouais, c'est clair. Mais tu as aussi plein d'activités intellectuelles aussi. Tu me disais que tu bossais sur une nouvelle langue. C'est un truc de ouf, ça.
Ah oui, non, mais j'ai écrit plusieurs langues pour des livres que j'écris, qui sont des livres, on va dire, de fantasy. J'ai voulu qu'il n'y ait plus ce concept de la langue commune. Donc, en fait, tous les gens parlent une langue. Et donc, quand ils interagissent avec des gens qui ne parlent pas la même langue, ils les entendent dans leur autre langue. Et pour ça, il faut quand même bosser les langues elles-mêmes, quoi. Voilà, parce que je trouvais ça intéressant aussi, parce que j'aime bien les langues de manière générale. Voilà. Et puis voilà, et aussi, juste pour le plaisir, il y en a un des bouquins que j'écris en anglais en pentamètre iambique, c'est-à-dire les vers de Shakespeare, parce que c'est drôle.
Bah oui, après tout, pourquoi pas. Merci beaucoup, Virgule, c'est un plaisir de te recevoir ici. Et t'aimes la politique aussi, c'est pour ça que t'es sur Popol. Et ça, c'est cool. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Zérine Bataret. Bonjour, Zérine.
Bonjour, Léa.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va. Je suis très contente d'être avec vous, donc tout va bien.
Ah, c'est cool, nous aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît ?
Oui, c'est toujours intéressant cette question parce que je me rends compte que je dis toujours que je veux pas être ramenée à mes origines mais c'est quand même malgré tout par là que commence mon histoire et ce que je fais. En fait, moi, je suis née au Kurdistan de Turquie. Je suis venue en France à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Et de par mon histoire, eh bien, malheureusement, je dirais, j'ai été très vite confrontée à l'injustice aux discriminations d'un peuple entier, aux ethnocides, à la disparition d'une langue, d'une culture organisée par un État. Et le fait d'être en France, dans un pays libre, ça m'a construite autour de la notion de justice. Et d'injustice qui par nature était insupportable. J'ai toujours eu un sens politique dès le jeune âge très très fort. Et du coup, ça a donné que j'ai réussi à faire des études de droit et que je suis devenue avocate et que j'ai fait des droits de l'homme. Je suis spécialisée en droits de l'homme, même si aujourd'hui je fais majoritairement de la défense des salariés, mais aussi parce que je suis fille d'ouvrier, syndicaliste, etc. Et je suis venue à la politique parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'activisme, c'était bien, mais que si on voulait agir, il fallait être là où était le décisionnel et le pouvoir. Et donc, je me suis lancée en politique et aujourd'hui, je suis conseillère régionale dans le groupe du pôle écologiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà.
Trop cool, merci beaucoup. Bon, je suis vraiment, 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 vraiment heureuse de vous recevoir ici. On va parler de deux thèmes aujourd'hui, de deux thèmes quand même assez intéressants et d'actualité, une fois n'est pas coutume sur Popol, évidemment. On va parler dans un premier temps de l'Ukraine et on parlera ensuite de la primaire populaire. Ça vous va ? Depuis plusieurs semaines, un projet d'invasion de l'Ukraine par la Russie sème la zizanie sur la scène internationale. Bien que la Russie ait démenti ce projet, les pays de l'OTAN se sont mis en ordre de marche pour empêcher ce tel projet. Les États-Unis ont annoncé que des troupes seraient bientôt envoyées en Europe de l'Est. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux de ne pas semer la panique. Sous cette situation d'incertitude, il y a aussi un tas de questions géostratégiques qui se posent. L'extension de l'OTAN à l'Est, la dépendance énergétique de certains États européens à l'égard de la Russie, l'unité européenne, les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, les relations entre la Russie et les États-Unis, etc., etc. Mais c'est sous le prisme de l'élection présidentielle en France que j'aimerais que l'on analyse cet événement international. Est-ce que cela peut avoir des répercussions sur l'élection qui se tiendra dans 3 mois, alors que la France préside actuellement l'Union européenne et qu'Emmanuel Macron a décidé de jouer un rôle diplomatique important, notamment en échangeant directement avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ? Qu'en disent les autres candidates et candidats ? Quelle place pour la question de l'OTAN dans les programmes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Virgule, qu'en penses-tu de tout ça ?
Bon, c'est une question qui est complexe et ce n'est pas ma spécialité, la géopolitique spécialement. Je dirais que c'est quand même assez inquiétant parce que, il y a plusieurs choses qui se jouent. Parce que, l'Ukraine, c'est c'est déjà une zone quand même de conflit depuis 8 ans, quoi. Et il y a notamment bon, des gens qui sont allés se battre en Ukraine. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens d'extrême droite ont parfois été dans les deux camps différents, en fait, parce que bah, c'est plus ou moins leurs copains aussi, les uns et les autres, en fait. Après, évidemment, il y a la problématique qu'il y a quand même une bonne partie des pays d'Europe centrale et de l'Est qui voient arriver ce genre de situation avec l'idée que bon, ben, le problème, c'est que l'Ukraine, la Russie, ça va être leurs ressources en gaz, en pétrole qui peuvent éventuellement se couper du jour au lendemain, quoi. Également, bon, évidemment, la question de l'OTAN. Bon, l'OTAN, c'est un petit peu une vieillerie héritée de la guerre froide qu'on a gardée parce que les Américains ont dit non, mais c'est bon, c'est pas parce que l'URSS c'est fini que c'est bon, on ne garde plus l'OTAN. Et puis, et du coup, c'est la question de la présence américaine en Europe qui fait que nous, en France, on a toujours été plus ou moins sur la tranche à dire oui, bon, l'OTAN, ok, mais quand même pas trop, quoi. Parce que nous, on aime bien quand même le côté on garde notre indépendance, notamment militaire et tout ça. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est. Les principaux à faire des armes en Europe, hein, en Europe de l'Ouest. Hein. Et du coup, c'est toujours un peu les problèmes de rencontres entre l'Est et l'Ouest. Ça fait des siècles que ça dure, en fait. Et que, en fait, on n'a toujours pas vraiment. On n'est toujours pas vraiment arrivé à un équilibre tout à fait, hein. C'est-à-dire que c'est toujours il va falloir à un moment donné s'occuper de régler ça parce que Poutine va débarquer avec ses troupes, avec ses 10 000 mandats là, il peut toujours imposer des choses à l'Europe, mais à côté, les Américains, c'est toujours... non, il ne peut pas être trop puissant en Europe de l'Ouest. Et au milieu, tu as l'Union européenne, et notamment la France, qui est là, nous, si on pouvait éviter de se reprendre une guerre mondiale sur la tronche, ce serait pas mal, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis il y a aussi cette la relation entre les États européens et les réactions des États européens qui est finalement coordonnée un peu dans le discours, hein, en disant que s'il y a effectivement une invasion russe de l'Ukraine, il y aurait des conséquences assez graves pour la Russie. Mais on voit par exemple que le nouveau chancelier allemand est quand même assez prudent et dénonce effectivement ce projet, mais par ailleurs n'est pas forcément prêt à envoyer des armes en Ukraine, à laisser transiter aussi un certain nombre d'armes et de matériel qui est de guerre que d'autres pays souhaiteraient transmettre à l'Ukraine via l'Allemagne. Donc il y a quand même aussi cette question peut-être de l'unité européenne en matière stratégique et de défense. Comme tu disais, on est dans l'OTAN, c'est quelque chose dont on a hérité avec une participation plus ou moins affirmée de certains États, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi toute cette question de la défense, de l'Union européenne, de la défense ? Zérine, tu en penses quoi, toi ?
Moi, je pense qu'effectivement, la question, elle est très, très importante. C'est-à-dire que ce dont il est question là, en l'occurrence, c'est ce qui se joue depuis des siècles sur la planète, c'est-à-dire la question des dominations, de l'impérialisme, qui a pu être colonial, qui a pu être ethnique, qui a pu être culturel, qui a pu être économique. C'est le néolibéralisme américain qui est une forme poussée du capitalisme. C'est C'est aussi un impérialisme territorial et de conquête territoriale, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Pendant des années, on a lutté contre l'impérialisme américain, notamment les communistes, contre le bloc américain, en disant que c'était le capitalisme, la pensée néolibérale, et on s'est affronté comme ça entre deux blocs. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, les États-Unis ont pu, à travers leurs agences de renseignement, déstabiliser des États entiers, placer des dictateurs qu'ils ont essayé de défaire derrière, etc. Et l'évolution montre qu'aujourd'hui, que l'impérialisme américain est toujours là, mais qu'aujourd'hui, on assiste aussi à un impérialisme russe, chinois, turc, d'ailleurs avec une coalition formée par ces États-là entre eux, très proche du régime, par exemple, aussi de Bachar el-Assad, et que c'est aussi un impérialisme de conquête auquel on est en train d'assister là, par la Russie, qui a commencé en 2014 avec la Crimée, qui est en train de continuer avec l'Ukraine, avec la Turquie qui veut attaquer tantôt Chypre et attaque d'ailleurs tantôt la Syrie et envahit le nord-est syrien. Et donc, on voit bien qu'il y a une tectonique comme ça qui se joue et que les invasions territoriales, elles continuent aujourd'hui. La question que tu es en train de poser, en fait, c'est quoi la place de l'Europe là-dedans ? Qu'est-ce que nous, on fait ? Est-ce qu'on rentre dans ce jeu de domination, dans ces rapports de domination ? On sait très bien que, par exemple, là, pour la Russie, c'est vrai ce qu'a pu dire Virgule, à savoir que c'est un combat qui est une politique de déstabilisation de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, et les réticences de l'Allemagne dont tu parlais, c'est surtout parce que la Russie, c'est le principal apporteur de gaz de l'Union européenne dont on dépend, et que l'Allemagne notamment a besoin de ces énergies-là. L'Allemagne dépend et l'Union européenne dépend aussi du gaz qui est transité depuis la Russie par trois gazoducs, un qui passe par la Pologne, un qui passe par la Biélorussie et un autre qui est en projet, qui vient d'être terminé, qui est le projet Nord Stream 2, qui traverse la mer Baltique pour apporter du gaz à l'Allemagne. Et en fait, l'Allemagne, les Américains étaient très hostiles à cela, et l'Allemagne avait promis, notamment, que ce projet ne serait pas mis en œuvre si la Russie l'utilisait politiquement. Et pourquoi politiquement ? Parce que le but étant de ne plus faire passer du gaz par l'Ukraine, qui vit de cette dépendance, qui vit économiquement du transit du gaz sur son territoire, et pour déstabiliser au maximum l'Ukraine. Donc, on a bien un jeu de pouvoir sur les ressources naturelles qui est en train de se mettre en place. Et l'Allemagne, effectivement, elle est assez réticente, mais il me semble qu'elle vient de confirmer dernièrement qu'elle ne donnerait pas suite à ce projet si la Russie mettait en œuvre ses menaces. Donc, on voit qu'on est dans des rapports de domination et dans des rapports de force. Et la vraie question, c'est quelle est notre place à nous, Européens ? Est-ce qu'on rentre dans ce rapport de force-là ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, Europe ? Est-ce qu'on laisse les États-Unis se mêler de notre défense, de la défense de l'Europe, ou est-ce qu'on a notre propre capacité à réagir et à protéger les intérêts de l'Europe ? Moi, je suis davantage pour une Europe qui se sert de ses positions de force économique stratégique pour imposer une vision de paix, pour imposer une vision écologique, pour imposer une vision plus juste, une économie pas de marché libre, mais de marché juste, et de réinstaurer un petit peu d'éthique et de morale là-dedans, sans rentrer dans les grands jeux impérialistes de notre siècle.
Ouais, c'est clair. Mais il y a aussi la question de la dépendance énergétique. C'est aussi la question de l'accès aux ressources naturelles, mais aussi la question, et tu parlais d'enjeux de domination, etc., du pillage aussi de ressources naturelles. Et je lisais d'ailleurs un édito dans le New York Times la semaine dernière qui était super intéressant, parce qu'en fait, le journaliste, l'éditorialiste en question disait la Russie est en train de réfléchir à envahir effectivement l'Ukraine, en se disant que la question de la domination et de l'importance du positionnement russe sur le territoire européen, et aussi de l'influence que la Russie peut avoir en termes militaires, stratégiques, etc. Alors qu'en fait, on se retrouve quand même dans un pays où il y a eu des incendies en Sibérie qui ont dévasté une partie du territoire, où finalement une partie du territoire avec le changement climatique, etc., ne sera plus du tout exploitable, que la Russie finalement est un des plus grands pays au monde qui gère assez mal ses ressources naturelles, qui ne s'intéresse pas forcément aux enjeux climatiques, alors qu'en réalité il y a une urgence notamment sur ce territoire, et une urgence qui est palpable, qui est visible, et que la question aussi de l'influence aujourd'hui diplomatique, stratégique, géopolitique, se joue aussi sur la question du renouvelable, sur la question des énergies vertes. Et ça, c'est quelque chose qui est pris en compte, au Moyen-Orient, qui commence à être pris en compte au Moyen-Orient par certains États, et qui est totalement, totalement, totalement absente du débat actuel au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne et aussi de la Russie. Clara, est-ce que tu as perçu, toi, cette dimension-là, et qu'est-ce que tu en penses ?
Donc, déjà, merci Léa de nous faire parler de géopolitique, puisque la géopolitique, c'est pas mon domaine de spécialité. Mais cependant, je me suis penchée sur le sujet, et j'ai fait des recherches, j'ai écouté les spécialistes. Si on écoute les spécialistes, le problème aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie date de 2014, comme l'a dit Zirine. Et on voit que, selon les experts, le problème, c'est véritablement que la Russie et Poutine veulent vraiment gagner cette guerre géopolitique et gagner le territoire ukrainien. Et on l'a vu depuis 2014, ils l'ont fait avec vraiment cette annexe qu'il y a eu entre la Crimée et la Russie. Aujourd'hui, le problème, c'est que la Russie revient tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un président Zelensky qui s'est rapproché de l'Union européenne, ce qui rappelle certains épisodes. On se souvient que le précédent, pas Yanukovych, mais le précédent voulait se rapprocher de l'Union européenne. Et le problème, c'est ça, c'est vraiment le but de Poutine, c'est de vraiment gagner l'Ukraine, de terminer le travail, tout simplement parce que l'Ukraine se rapproche à nouveau de l'Union européenne. Et qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est l'intervention de Joe Biden qui aujourd'hui apporte un soutien financier par des interventions militaires. Et c'est vraiment cet enjeu géopolitique qui se joue. Le but de Poutine est véritablement de réduire cette alliance qui est en train de naître entre l'Ukraine, qui peut-être a envie de se rapprocher de l'Union européenne, et de l'OTAN également. C'est ça, c'est éviter que l'Ukraine gagne son indépendance vis-à-vis de la Russie. Et c'est pour ça qu'on observe vraiment une volonté de Poutine de mettre en place des militaires autour de la frontière et de réduire l'autonomie, l'indépendance que l'Ukraine est en train de gagner aujourd'hui. Donc, sur le plan énergie renouvelable, la Russie a vraiment de l'influence, parce que c'est eux qui comme l'a dit Léa, apportent beaucoup d'énergie, tout ce qui est gaz. Et on le voit que l'Allemagne décide de ne pas trop intervenir parce que l'Allemagne a ses intérêts sur le plan énergétique. Et on voit aussi que la France, où on a eu Emmanuel Macron en 2019, qui jouait celui qui voulait être un intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie, on voit qu'il se positionne désormais un peu plus puisqu'il est aussi président de l'Union européenne, mais il se positionne et il dit si ça va frapper, si ça frappe de la part de la Russie, il y aura des conséquences. Mais au fond, les grands acteurs de l'Europe n'agissent pas totalement parce qu'ils ont des intérêts. Et même si aujourd'hui on constate que les États-Unis est vraiment mènent cette danse, on voit que chaque personne avance des pions sans pour autant mettre à mal Vladimir Poutine. Et pour moi, c'est aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui mène les débats autour de ce conflit, tout simplement. Et l'énergie renouvelable, ils ne sont pas forcément dans cette dynamique. Et c'est peut-être à l'OTAN. C'est à l'OTAN de montrer que c'est eux qui décident et que peut-être aussi, en prenant certaines décisions, peut-être mettre à mal Vladimir Poutine, peut-être aussi il pourra revoir aussi sa stratégie politique sous le plan de l'énergie, énergie renouvelable. Donc pour l'instant, pour moi, c'est Vladimir Poutine qui mène un peu ces échanges et voilà.
Ouais, c'est clair. Il mène un peu la danse. Moi, je voulais quand même qu'on fasse qu'on dise un petit mot, très bref, sur les conséquences que ça peut avoir sur le débat de la campagne présidentielle et la présidentielle. Je veux dire, si jamais la France s'engage dans une guerre, parce que ce n'est ni plus ni moins que ça, quelles sont les conséquences pour Emmanuel Macron? Quelles sont les conséquences pour l'élection présidentielle que l'on va avoir dans 3 mois, t'en penses quoi?
Ben, c'est clair que de toute façon, Emmanuel Macron va devoir se positionner ça va nécessairement avoir des conséquences sur la campagne. Après, c'est bête à dire, mais je n'ai pas l'impression que ça passionne les foules. Cette histoire, ce qui est bien dommage.
Je suis bien d'accord, Je suis bien d'accord. D'ailleurs, moi, quand j'ai voulu chercher des infos, je les ai trouvées dans des canards américains beaucoup plus que dans les canards français.
Non, mais c'est ça. Enfin, typiquement, moi, j'en ai parlé avec une amie hier soir, et je lui apprenais totalement la situation. Hein. Je veux dire. C'est simplement justement parce que je parlais du fait que j'allais parler de ça aujourd'hui avec toi. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment au courant qu'il se passe des trucs assez vénères en Ukraine en ce moment. À la place, c'est plutôt... qu'est-ce que sera le prochain problème de Taubira, quoi. C'est clair que s'il y a une crise majeure vraiment qui se déclenche, tous les candidats vont devoir se positionner à un moment donné. Ils vont dire soit on fait rien, soit on se met côté OTAN, Biden, et puis si vraiment il faut y aller avec des troupes, et on ira, ou en tout cas on enverra des armes. Et puis peut-être des gens qui vont dire il faut plutôt apaiser Poutine parce que c'est le seul moyen d'éviter la catastrophe d'une vraie guerre, à proprement parler, et tout ça. Ça va. Pour l'instant, en fait, c'est encore un petit peu larvé. C'est-à-dire que c'est pas encore une vraie question qui prend le débat politique complètement, mais si jamais ça doit venir à être une crise majeure, effectivement, ça va vraiment influer. Et d'ailleurs, ça va d'ailleurs pas du tout aider l'union de la gauche, parce que il y a quand même pas mal d'écoles différentes sur le positionnement géopolitique.
C'est clair. Et notamment face à l'OTAN, par rapport à l'OTAN.
Rapport à l'OTAN, oui, parce qu'il y a quand même, par exemple, si on prend quelqu'un comme Fabien Roussel, comme le Parti communiste, il y a quand même une histoire de ne pas être tellement fan de l'OTAN au niveau du Parti communiste. Et donc, s'il y a une intervention américaine, ils vont probablement pas être tellement pour. Après, par exemple, je pense que le Parti socialiste Europe Écologie Les Verts vont être plutôt dans une idée de on soutient l'OTAN. Jean-Luc, je sais pas trop.
De mémoire, il propose de se retirer de l'OTAN. Hein.
Oui, ça, oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est si vraiment il y avait, si vraiment, ça pétait complètement. Ouais, bon.
Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Virgule. Zérine, toi, tu t'en penses quoi des conséquences sur la présidentielle en France?
Les conséquences sur la présidentielle, ça revient aussi à la question que tu posais, c'est-à-dire que quelle importance ça prend chez les candidats et dans leur dialectique électorale, etc. Y en a un qui en parle très bien, et même si je parle un petit peu, je prêche pas pour ma paroisse, mais Yannick Jadot a là l'occasion, par exemple, de démontrer que la dépendance énergétique et la dépendance aux énergies fossiles devient un problème politique, devient un problème même de politique internationale, et que ce qu'il plaide, et je suis assez d'accord avec lui là-dessus, c'est que non seulement on doit réduire notre dépendance et trouver d'autres ressources, c'est-à-dire d'autres partenaires chez qui on peut s'approvisionner. Et là, effectivement, les États-Unis se frottent les mains parce qu'eux voudraient qu'on s'approvisionne en gaz chez eux. Et puis sinon, il y a l'autre solution. Donc, il ne s'agit pas simplement de diversifier et de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, mais l'autre solution, c'est aussi de décarboner et d'arrêter d'être dépendant aux énergies fossiles de manière générale et de procéder effectivement à une politique écologiste qui permettrait d'avoir recours plutôt à des énergies renouvelables et de ne plus être dépendant comme ça et d'en arriver là à des situations de crise et à des situations systématiques où on assiste à des choses absolument intenables en matière de droits humains, de catastrophes de guerre, parce que c'est comme au Moyen-Orient, hein, les guerres qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu, c'est pas parce que les Américains ou d'autres ont eu une grande soif de liberté à un moment et ont parlé pour les droits des peuples, c'est parce qu'il y a des enjeux du pétrole, du gaz également, de l'eau pour la Turquie qui mène une guerre à l'eau aujourd'hui. Voilà, les enjeux sont toujours des enjeux en réalité économique. Donc, la première des choses, c'est de ne plus être dépendant. Et là, Yannick Jadot, sur ce terrain-là, par exemple, il se frotte les mains. Ce qui est assez troublant, c'est de voir l'extrême droite française défendre une Russie qui, pourtant, vient attaquer les intérêts de l'Europe et qui est aux portes de l'Europe. En réalité, ce n'est pas si étonnant que ça parce que voilà, les partis d'extrême droite en France sont plutôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bien alimenté financièrement par la Russie, le Front National en 2015, je crois, ou si ce n'était avant, je me trompe peut-être dans les dates, mais avait perçu plus de 11 millions d'euros par la Russie. Donc voilà, on peut comprendre qu'il y ait à la fois ce rapprochement et ce soutien, parce que quand on dépend financièrement eh bien, d'un État, eh ben, forcément on est avec lui. Et de l'autre côté, il y a aussi cette idée qu'on défend la race blanche, pure, chrétienne, enfin ou catho, contre un bloc islamiste, etc. etc. Donc, la réaction finalement de l'extrême droite se comprend du point de vue du financement et de l'idéologie nationaliste, de ce choc toujours culturel qui veulent opposer entre les races pures et les autres. Par contre, ce qui semble absolument, et ça je pense préjudiciable pour l'extrême droite française, c'est d'accepter d'être inféodé à une Russie qui se veut conquérante et qui, elle, en a rien à fiche que l'Ukraine soit culturellement du même bord qu'elle. Donc voilà. Et après, ben.
Merci on a beaucoup, la... Zérine. On va devoir. Excuse-moi, je t'interromps, mais on doit tracer là. On est méga en retard. Est-ce que tu veux rajouter juste un élément ou je passe la parole à Clara pour conclure?
Non, je rajouterais juste qu'après, la position de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, et du Parti communiste, qui est un peu compréhensible parce que de la même manière, il reste bloqué sur on est au lendemain de la guerre froide et il fait un anti-américanisme primaire. Et moi, ce qui me heurte le plus en tant que droit de l'homiste, en tant qu'humaniste, c'est le fait d'entendre des gens de gauche avoir des rapprochements quelconques avec des dictatures et des gens qui ne sont pas soucieux des droits humains. Donc, si on veut en faire quelque chose politiquement, pour moi, on ne peut que plaider une Europe forte et qui ne rentre pas dans des enjeux impériaux, mais plus dans des enjeux de stabilisation, de ramener la paix et le respect des droits humains.
Merci beaucoup, Zérine. Je vais laisser la parole à Clara pour conclure sur ce thème. Merci, Clara.
Oui, concernant les présidentielles, la présidentielle de 2022, je pense que véritablement, il n'y aura pas forcément de conséquences sur cette présidentielle, tout simplement parce qu'on est un peu éloigné de ce qui se passe, malheureusement, on peut le dire, de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est lié à l'OTAN. Nous sommes aussi éloignés de l'OTAN, et en plus, on est encore plus éloigné de l'Union européenne. On aura beau dire, même si le président Emmanuel Macron veut mettre en avant l'Union européenne, on est éloigné parce qu'il manque encore de la transparence sur les activités de l'Union européenne et surtout sur l'intérêt des Français véritablement durant leur quotidien. Donc, pour ma part, il n'y aura pas de conséquences sur la présidentielle. Aujourd'hui, les Français sont intéressés par le pouvoir d'achat, etc.
Merci beaucoup, Clara. Si ça vous va, on va passer au deuxième thème de cet épisode et on voulait vous parler de la primaire populaire. 467 000, c'est le nombre de personnes inscrites pour participer à la primaire populaire. Ces personnes ont jusqu'à dimanche pour voter et désigner celle ou celui qui est censé porter les couleurs de la gauche à l'élection présidentielle. Le mot d'ordre des organisatrices et organisateurs est simple, unir la gauche pour la faire gagner. Or, si cette initiative remporte un certain succès auprès d'une partie de la population, les principales forces de la gauche, le PS, ELV et LFI, ont décidé de la bouder. Dans ce contexte, la promesse d'union semble difficile à tenir. En appelant la gauche à se réunir début décembre, Anne Hidalgo, qui envisageait à ce moment-là de participer à la primaire populaire éventuellement, a peut-être contribué à convaincre finalement Christiane Taubira à se lancer dans la course à la présidentielle en étant la principale figure de la gauche à reconnaître le scrutin de cette primaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette initiative a du sens pour vous et sera-t-elle en mesure de garantir l'union à gauche? Ce sursaut citoyen n'est-il pas aussi la preuve que les appareils politiques traditionnels ne sont plus véritablement en mesure de séduire les électrices et les électeurs? Ou est-ce que cette initiative doit être considérée comme un épiphénomène que l'on oubliera dès la fin de la campagne présidentielle? Virgule, qu'en penses-tu?
Non, mais en soi, je pense que les initiatives... populaires comme ça, qui sont un petit peu plus directes, venant de la base, etc., ça va. On va aller vers ça. On va aller, je pense, vers un modèle un petit peu moins vertical qui passerait directement par les partis, par les appareils, etc. Mais là, il fallait le faire avant. Parce que là, c'est pas au dernier moment comme ça qu'on va sortir une union de la gauche bricolée comme ça, avec en fait les candidats qui, eux, ont déjà fait campagne pendant des mois, voire pour certains, pendant depuis plus d'un an. Vont pas se mettre derrière la primaire populaire.
Le lapsus qui, énorme.
qui arrive comme ça au dernier moment. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme Yannick Jadot, il a déjà fait une primaire, il n'a pas envie d'en faire une deuxième. Hein. Après, je pense que c'est dans l'idée une bonne initiative, mais bah, ça ne marche pas. C'est une. On est dans des temps qui sont un petit peu troubles sur le rôle des partis, sur le rôle des formations politiques depuis. Bah depuis que Emmanuel Macron est arrivé et a un petit peu cassé la baraque de tout le monde. Je pense que dans cette dans la situation actuelle du paysage politique, c'est pas vraiment pertinent parce que ça ne va pas apporter une union de, en gros, de personnes qui pensent qu'ils sont déjà unis, en fait. C'est-à-dire que Europe Écologie et Vert, ils ont fait leur primaire, et ils sont unis, quoi. Du coup, ils sont unis derrière Jadot. Mélenchon, bon, il n'a pas fait de primaire, mais voilà, ça fait un bon moment que, voilà, il y a eu une dynamique de l'Union populaire avec Mélenchon. Ils considèrent qu'ils sont déjà unis et que du coup, il n'y a pas vraiment de raison de refaire une union qui, pour ces formations politiques-là, existe déjà et ça ne les intéresse pas de faire une union avec des gens avec qui ils ne partagent pas grand-chose. C'est-à-dire que, bon, entre. Le Printemps républicain et la France insoumise, on ne voit pas tellement de raisons de vouloir travailler ensemble, en fait. Mais effectivement, je comprends que ça puisse attirer un certain nombre de personnes qui se disent que c'est la seule solution pour ne pas se prendre 5 ans de Macron de plus, si ce n'est pire. Il y a effectivement une demande, mais je ne pense pas c'était le bon moment cette fois-ci, à ce moment-là, aussi tard. J'y crois pas des masses ce coup-ci. Après, ce serait intéressant de voir les résultats, effectivement, parce que ça pourrait être assez rigolo si, par exemple, c'était pas Christiane Taubira qui était désignée, et parce que effectivement, il y a quand même, on a dit 467 000 personnes qui ont voté, et tous ces gens-là ne sont pas des fanatiques de Taubira, forcément. Donc, ça pourrait être intéressant de voir que la primaire populaire, en fait, fasse émerger ou confirmer un autre candidat. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est le genre d'initiative, dans l'absolu, qui est ce vers quoi, je pense, on devrait aller, mais ce ne sera pas pour cette fois.
Merci beaucoup, Virgule. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans les partis, notamment LFI, RELV, qui se disent « bon, bah ça va, on est unis ». Mais j'ai lu quand même dans la presse, et notamment l'UMA qui parlait de ça cette semaine, qu'il y avait certaines personnes de ces partis-là qui étaient tentées, qui se posaient la question de savoir « bon, est-ce que je vote, est-ce que je vote pas ?» Et je trouvais ça assez intéressant quand même. Et enfin, Clara, je te donne la parole à toi maintenant. Virgule disait « ça se trouve, ce sera pas Taubira, c'est clair que ce serait ouf, quoi. Si jamais c'est pas Taubira, admettons que finalement, par exemple, tout le monde était amené à voter pour Mélenchon, parce que même s'il reconnaît pas le scrutin, je crois que les gens peuvent quand même voter pour lui, si je ne m'abuse, ce serait quand même assez ouf, non? Et si, attendez, encore autre chose, est-ce que ça pourrait pas faire émerger aussi une personne qui est un peu moins connue, par exemple Charlotte Marchandise ou Pierre Larrouturou, qui sont quand même les candidats et candidates officielles de cette primaire? Qu'en penses-tu, Clara?
Pourquoi pas, ce serait pas plus mauvais, hein, franchement. Ce serait peut-être décevant pour la candidate Taubira, mais c'est vraiment une primaire populaire où normalement il y a cette volonté de revoir tout ce qui est lié à parti. Donc, on ne veut vraiment pas évoluer dans un contexte de parti. Donc, pourquoi pas? Ce serait décevant peut-être pour la candidate, mais ce ne serait pas forcément décevant pour les autres candidats qui souhaitent aussi faire mettre en avant leurs idées. Et si on veut voir de nouvelles personnalités, si on veut voir une nouvelle classe politique avec des personnes qui sont issues de la société civile, qui vivent le quotidien, qui sont vraiment dans le quotidien des Français, pourquoi pas? Aujourd'hui, ce qui me dérange un peu avec la candidature de Christiane Taubira au sein de cette primaire populaire, pour moi, je trouve un peu décevant, tout simplement parce que c'est une femme que j'admire. Christiane Taubira, originaire de la Guyane, franchement, qui, dans les territoires d'outre-mer, n'admire pas cette femme politique. Ce qui m'a déçue aujourd'hui, c'est tout simplement attendre cinq années où on ne voit pas forcément la candidate en France qui fait des conférences aux États-Unis, etc., et qui revient à 3 mois des élections pour sauver la gauche. Sauver la gauche qui, pour moi, aujourd'hui, se donne en spectacle. C'est triste de le dire aujourd'hui, mais c'est la vérité. La gauche, aujourd'hui, se donne en spectacle, tout simplement. On a une candidate qui a été choisie en catimini, à savoir Anne Hidalgo, qui pour moi avait toutes ses chances, mais elle a refait l'erreur, selon moi, de Ségolène Royal, où elle n'a pas réussi non plus à fédérer, parce qu'au fond, au final, certaines personnes, je pense, voulaient que Christiane Taubira aille se présenter, parce que ce qu'on peut rappeler, c'est que Christiane Taubira ne voulait pas se lancer dans cette présidentielle. Elle avait dit sur France Inter, devant Léa Salamé, qu'elle n'était pas prête, alors qu'il y avait un intervenant qui lui disait d'y aller. Elle ne voulait pas aller dans cette primaire populaire. Et on a eu Anne Hidalgo qui disait pas de primaire, certains qui disaient pas de primaire, et on se retrouve avec Anne Hidalgo qui revient à 3 mois et qui dit « je veux une primaire ». On est vraiment dans une gauche, un peu dans ce spectacle de la gauche que je trouve décevant. Après quelques semaines, quand elle s'aperçoit que Christiane Taubira veut se lancer, elle retire sa candidature, elle retire cette participation à la primaire populaire. Comment on peut créer de la confiance? Comment on peut dire, peu importe vis-à-vis de ceux qui votent à gauche, mais comment on peut dire aux gens, allez voter? Allez voter, il est important d'aller voter. Faites confiance aux politiques. Quand eux-mêmes, les politiques, ne savent pas sur le plan des idées où se placer, ne savent pas se mettre de côté leur ego, parce que c'est ça qui se joue à gauche, c'est l'ego politique, et n'arrivent pas à se réunir pour porter un projet. Je suis désolée, on nous a parlé énormément d'immigration et de sécurité. Le vrai problème des Français, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Et on voit des personnalités politiques de droite s'emparer de sujets qui sont censé être de gauche. Je trouve ça un peu triste, tout simplement.
Merci beaucoup, Clara. C'est vrai que tu as remis les choses un peu dans le contexte, notamment par rapport à la candidature de Christiane Taubira. C'était assez important de revenir là-dessus, sur le fait que ça fait 5 ans qu'on l'entend pas beaucoup, effectivement. 5 ans qu'elle refuse, qu'elle dit « non, j'irai pas ». Elle a vu une certaine opportunité, mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, en fait, c'est un peu genre l'ironie du sort, c'est que cette opportunité, elle a vraiment commencé à l'envisager de manière très sérieuse à partir du moment où Hidalgo a dit « allez, venez, on s'unit ». Parce qu'avant ça, finalement, Taubira n'émergeait pas sur le devant de la scène politique, ne faisait pas part de ses intentions, restait relativement discrète par rapport à ça. Et c'est à partir du moment où Anne Hidalgo a dit « faisons une union » le 8 décembre que les choses ont changé. Donc, c'est quand même assez intéressant. Zérine, comment tu accueilles cette initiative de la primaire populaire et quelle est ton analyse, s'il te plaît?
Alors, moi, je suis assez… Je vais être… C'est un truc… Je suis un peu moite-moite. Moi, ça fait des années que je milite pour toutes les élections successives, que je dis tracte dehors, et en fait, c'est vrai qu'en tant que militant, quand on tracte et que tout le monde vous dit, écoutez, vous nous emmerdez parce qu'avec vos tracts, parce que vous n'êtes pas foutu de vous entendre et vous n'êtes pas foutu d'assumer et de comme disait Clara tout à l'heure, hein, c'est une histoire d'ego. Vous n'êtes pas capable, en fait, de faire le travail, de faire ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire de faire bloc, voilà, de faire bloc et de réagir et de mettre de côté vos égos. Moi, ça fait quand même pas mal d'années, au moins depuis 2019 que j'entends ça. J'ai tracté pour les européennes, j'ai tracté pour plein de choses. Et en fait, oui, l'unité, en fait, la gauche a essayé de la faire avec le Festival des idées, avec le Big Bang de Clémentine Autain. Il y a une conscience, même dans les partis politiques, qu'il faut trouver un cadre commun d'action avec aussi cette impuissance de faire ressurgir la gauche, de lui donner sa splendeur, ses idées, de l'espoir, etc. Donc, il y a une certaine impuissance au sein des partis politiques de gauche qu'on constate et il y a un désir d'unité. Et quand tout à l'heure, j'entendais dire que dans les partis politiques, chacun était bien à sa place et n'avait pas envie de la primaire populaire, ce n'est pas vrai du tout. Il y a un désir d'unité dans quasiment tous les partis politiques aujourd'hui à gauche. Vous en avez, il y a deux blocs qui s'affrontent. Il y a ceux qui pensent que la gauche gagnera ses lettres de noblesse quand elle réussira à travers les partis à redonner de l'espoir et à créer le récit de la gauche qui arrivera à créer l'émulation, un grand parti de gauche qui arrivera à entraîner tout le monde derrière lui. Et il y a ceux qui croient que il faut s'unir parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que ce jour arrive et avec un certain pragmatisme, on n'a pas le temps. Et là, maintenant, il faut faire bloc parce qu'il y a la montée des fascismes, parce qu'il y a la montée de l'extrême droite, il y a le libéralisme, il y a cette course qui est mortifère de ce capitalisme qui ronge la société, qui nous met en concurrence tous les uns avec les autres, etc., etc. Donc, en fait, moi, je suis dans les deux. C'est-à-dire que cette primaire populaire, je la vois comme une aspiration qui existe depuis longtemps, à la fois dans la société et dans les partis politiques, d'un désir de faire bloc d'unité. Et je pense que c'est le vecteur par lequel on pourra peut-être créer le grand récit de gauche. Voilà, maintenant, je trouve que la primaire populaire, elle a été trop rigide. Moi, je n'y ai pas souscrit. Là, je me suis inscrite pour voter, par exemple, pour mon candidat, alors que je fais partie d'un mouvement politique. Pour moi, ce n'est pas du tout antinomique, par exemple. Mais je trouve que la méthodologie m'a vraiment refroidie dès le début. C'est-à-dire que c'était aussi rigide qu'un autre parti politique. Il fallait signer un serment pour ne pas donner ses parrainages. Il faut s'engager. Pour moi, le cadre était trop rigide. Moi, je m'en fichais à la rigueur que ce soit une primaire populaire ou une entente entre Jadot, Mélenchon ou d'autres. Je voulais simplement qu'on arrive à une candidature unique et à montrer à la population qu'on avait un désir de faire bloc ensemble parce qu'on a malgré tout des valeurs communes. Moi, je suis une militante politique depuis longtemps. J'ai toujours dans les manifs fait les manifs avec le PC, avec la FI, avec les écolos, avec le PS, de ce qu'il en reste en tout cas, de la branche qui partage les mêmes idées que moi. Mais moi, j'ai toujours milité avec ces gens-là, c'est des camarades. Donc, on peut rester sclérosé dans nos partis, mais je pense qu'il y a une vraie aspiration à ce que la gauche retrouve sa grandeur dans ses valeurs. Je pense qu'il faut qu'on parte, nous aussi, à la reconquête de nos valeurs, celles qui nous réussissent, qui nous réunissent, qu'on arrête de se tirer dans les pattes. Et même la manière dont on tire sur cette primaire populaire, moi, même si elle est maladroite, même si elle peut être récupérée par le PS, etc., je lis derrière une vraie sincérité, en tout cas, des inscrits et de l'aspiration à ce que la gauche retrouve ses valeurs et sa volonté d'arriver au pouvoir.
C'est clair. Merci beaucoup pour vos éléments à toutes les trois sur ces deux thèmes qui n'étaient pas faciles à traiter, mais qui nous a quand même plongé dans des discussions très, très intéressantes. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à vos actualités et on va commencer avec toi, Virgule. De quoi voulais-tu nous parler cette semaine, s'il te plaît ?
C'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que femme trans racisée. C'est triste à dire, mais encore maintenant, il nous arrive des trucs horribles régulièrement. Moi, depuis que j'ai fait mon coming out trans, j'ai été agressé à peu près une quinzaine de fois, dont deux fois la semaine dernière, dont une fois par mon taxi. voilà quoi, c'est quelque chose qui me désole et contre lequel il faut absolument lutter parce que c'est épuisant de pas pouvoir vivre sa vie normalement sans avoir tout le temps peur de se faire tabasser, de se faire agresser, de se faire menacer. C'est absolument épuisant. Et donc, ce n'est pas vraiment une actualité, enfin, si, c'était la semaine dernière, mais c'est plus de dire que, bah, notamment d'ailleurs dans les mouvements féministes, que bah, parfois, on n'est pas forcément toujours les bienvenus. Je pense que vous êtes familière avec l'expression TERF, c'est-à-dire les féministes radicales excluant les personnes trans. C'est difficile de parfois devoir se battre au quotidien contre la société qui ne veut pas de nous et parfois d'aller dans des cercles féministes où on ne veut pas de nous non plus. Et voilà, c'est simplement pour dire que bon, oui, il y a besoin d'un vrai soutien. Je sais que les mentalités évoluent. Je sais que, on va dire, il y a une plus grande acceptation de la transidentité dans la société de manière générale. Mais par contre, comme justement on est de plus en plus visible, enfin, il y a des films, il y a des émissions qui parlent de transidentité de plus en plus, et c'est très très bien. Bon, après, pas toujours de manière très à droite, mais aussi, en même temps, les personnes qui nous détestent entendent parler de plus en plus de nous, et donc nous détestent encore plus. Donc, c'est à la fois une bonne période pour nous, pour les personnes trans, et en même temps aussi une des périodes les plus dangereuses. Parce que tant qu'il n'y a pas encore cette... On peut encore vraiment être cible de grosses, grosses haines. Voilà.
Merci beaucoup, Virgule, d'avoir eu cette démarche et de partager ton témoignage avec nous aujourd'hui. Ça ne doit pas être facile et je pense que c'est fondamental. Donc voilà, on te soutient à 100%. Toutes les initiatives de lutte contre la transphobie sont importantes. Et merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Et tu peux savoir que tu es la bienvenue sur Popol. Anytime. Et effectivement, c'est juste inacceptable que tu sois dans une angoisse permanente parce que tu as décidé d'être la personne que tu es. Et on entend très bien ton témoignage et on te soutient à 100%. Merci beaucoup, Virgule. Clara, de quoi voulais-tu nous parler ? Je t'en prie. Clara, de quoi voulais-tu nous parler, toi ?
Alors moi, je voulais vous parler de la Martinique sur trois points qui me touchent particulièrement avec la Martinique parce que c'est mon île. Pour moi, c'est la plus belle île du monde. Donc, je vous invite à vous rendre en Martinique si ce n'est pas encore le cas. Et il y a trois choses que j'ai envie de mettre en avant rapidement. Ce sera d'abord mettre en avant le dépeuplement de la Martinique, du territoire martiniquais. On est actuellement environ à 354 000 habitants, alors qu'il y a 10 ans, on était à plus de 400 000 habitants en Martinique. On constate qu'il y a alors 3 500 habitants qui partent, qui quittent le territoire martiniquais. Certains aujourd'hui, personnalités politiques en France hexagonale, parlent de grands remplacements. Mais la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, c'est est-ce que le grand remplacement ne se fait pas déjà en Martinique ? Ce n'est pas, quand je dis ce type de propos, il faut bien comprendre qu'on est dans un territoire qui perd sa jeunesse martiniquaise. Je trouve ça désolant qu'il n'y ait pas de politique publique pour retenir les Martiniquais sur leur territoire et pour qu'ils fassent grandir cette île et faire même prospérer, faire rayonner la France, puisque la Martinique peut participer véritablement au rayonnement de la France. Et pourquoi je parle de remplacement? Tout simplement parce que les Martiniquais partent et on constate que peut-être il y a des retours, mais en tout cas, nous, Martiniquais, nous ne retournons pas. Et ce serait bien que les acteurs politiques de la Martinique traitent cette problématique du dépeuplement. Pour moi, le dépeuplement, et là on arrive à mon deuxième cas que je veux mettre en avant, est dû au manque de formation. La formation aux Antilles, et cela provient selon moi, depuis le démantèlement de l'Université des Antilles et de la Guyane, notamment initié par l'ancienne garde des Sceaux qui était au pouvoir. Et on a aujourd'hui trois universités autonomes, mais qui ne répondent pas aujourd'hui véritablement aux problématiques du territoire. On a des formations qui sont exposées, qui sont mises en avant, mais qui ne permettent pas, qui ne répondent pas aux problématiques du territoire. Donc, on a un taux de chômage plus élevé que la France hexagonale. Je pense qu'il faudrait faire de la Martinique, selon moi, un territoire qui permettrait de mettre en avant les innovations numériques. Peut-être qu'il faudrait voir pour qu'on mette en place, pour qu'on permette à la Martinique de devenir un territoire qui serait basé sur l'innovation, le numérique. Je pense que le numérique est important, c'est l'avenir. Et pourquoi pas former les jeunes Martiniquais sur le numérique? Et puis, je pense également qu'il faudrait, puisqu'on le voit en France hexagonale, il y a beaucoup d'Antillais qui travaillent au niveau de l'administration, qu'on fasse concret des écoles. Au dernier point, ce serait qu'il y ait vraiment que la Martinique et les territoires d'outre-mer puissent se fédérer ensemble, qu'il y ait vraiment cette fédération des territoires d'outre-mer pour que la France rayonne à l'international. Aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de problèmes dans nos territoires. Il faudrait peut-être retourner la situation et dire à la France hexagonale qu'elle n'est rien sans les territoires d'outre-mer.
Merci beaucoup, Clara. Et enfin, Zérine, de quoi voulais-tu nous parler, toi?
Moi, je voulais vous parler d'une jeune chanteuse qui s'appelle Nudem Durak, qui est en Turquie emprisonnée depuis 2015, alors qu'elle avait 27 ans, à 19 années de prison pour avoir chanté en kurde et pour ses engagements artistiques. Donc, elle a suscité des réactions à travers la planète. Beaucoup d'artistes se sont réunis autour de son cas, Angela Davis, beaucoup de chanteurs, d'écrivains qui ont témoigné de leur solidarité, qui ont condamné son arrestation. Elle doit y rester donc jusqu'en 2034. Moi, j'ai des informations selon lesquelles, et je sais qu'elle est régulièrement remise dans les quartiers disciplinaires parce qu'elle chante encore même en prison. Donc, même en prison, on l'emprisonne davantage pour la faire taire. Et malgré cela, elle ne se tait pas. J'avais vraiment envie d'en parler parce que je crois qu'à l'heure où on parle de Zemmour, de ses chansons et ses musiques venues d'ailleurs que certains n'apprécient pas, on devrait vraiment réfléchir à ce que nous faisons parce que je pense qu'il y a une inconscience aussi des libertés comme étant acquises. On ne se rend pas compte et on voit toujours ces libertés, c'est pareil pour le droit à l'avortement et plein d'autres droits fondamentaux qu'on pense être acquis et qui sont sans cesse remis en cause. Donc, on a une chance immense de pouvoir chanter, ne serait-ce que chanter et de s'exprimer. Faisons attention et pensons à Nudem Durak. Moi, j'y pense tout le temps parce que j'ai l'impression que je m'identifie sans doute parce que je suis kurde d'origine. Je pense que ça pourrait être moi. Et peut-être aussi sur un point sur l'importance de l'art, de la musique dans les combats. Chez nous, les Kurdes, c'est très important. Le chant et la résistance se véhiculent à travers la musique et le chant. Et le fait même de chanter en kurde est un acte de résistance aujourd'hui. Le fait même de dire qu'on est kurde, de le revendiquer, est un acte de résistance. Alors, voilà, je déplore qu'en France, nos artistes ne s'engagent par exemple pas davantage à travers leur art pour éveiller les consciences. je vais employer le terme de woke, histoire de provoquer davantage, mais d'être éveillé. Voilà, j'appelle tout le monde, du coup, à travers le cas de Noudem Dourak, au réveil, en tout cas.
Merci beaucoup, Zerine. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau virtuel de Popol. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et j'en profite aussi pour rappeler que Popol a besoin de vous. Donc, si vous voulez lâcher 2, 3, 4, 5 balles sur le uTip de Popol, ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Et je rappelle aussi que Popol devient live une fois par mois au Point Éphémère. Le prochain rendez-vous sera le 11 février. On parlera de violences sexuelles et sexistes en politique avec Rose Lamy de Préparez-vous pour la bagarre, avec Fiona Texer et Nelly Garnier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.